Donc j'avais fait un cours pour le mois de juin, intitulé « Cet été », après un autre cours « Vraiment cet été ». Je crois que je vais intituler ce cours là maintenant « Vraiment, vraiment cet été ». Il est vrai que l'Arvakadouri, au nom, enfin son chamash, son bedeau comme on dit, avait annoncé au nom de l'Arvakadouri que ma chère viendrait au mois de Av cette année. Le mois d'avait passé, ma chère n'est pas venue. Alors, Rav Nissim Toledano avait dit à sa petite fille que quand elle se marierait, ma chère sera là. Quand elle se marierait, ma chère sera là. Et elle s'est mariée, et ma chère n'est pas là. Néanmoins, l'été n'est pas fini. Et ce que je pense, c'est tout à fait personnel, je pense que le Rav Eliashiv, le grand de la génération, mort à l'âge de 102 ans, qui a été enterré la veille du mois de Av, à mon avis, a dû partir là-haut pour dire halt. C'est-à-dire que. Quand ma chère se dévoile, c'est pas que du jour au lendemain tout est fini. Ça se peut qu'il y ait, normalement c'est marqué d'après les textes, qu'il y aura des guerres, il y aura une opposition, Gog ou Magog, etc. Gog ou Magog doit avoir lieu, d'après la tradition, à Sukkot. Pendant la Haftara de Shabbat Sukkot, on lit le texte de Gog ou Magog qui raconte la fin. C'est dans Zecharia. De là, il y a une tradition, comme ça, Rabbeinu Ari, il écrit que chaque Sukkot, c'est 7 jours. 8 jours à l'étranger, 7 jours en Israël. Chaque jour de Sukkot, un septième de Gog ou Magog disparaît. Donc Gog ou Magog, c'est une union des peuples contre nous, venant du nord, voulant conquérir Jérusalem. Ce que les Arabes hurlent depuis très longtemps. Prochaine fois, on va fêter le Ramadan à El-Kotz, d'accord? El-Kotz, c'est Jérusalem. Le mot Kadosh, El-Kotz. Ali Khamenei, le dirigeant de l'Iran, au-dessus de Ahmadinejad, il a dit qu'il fallait libérer Jérusalem. Bon, ils vont le faire un de ces jours. C'est normal, enfin, c'est prévu depuis 3500 ans. J'imagine qu'ils vont le faire un de ces jours. Encore une fois, on peut se tromper. On s'est toujours trompé. On se retrompera encore beaucoup. Mais peut-être que non. Donc, pour dire que ne pas rentrer encore en déprime que c'est fichu, l'été n'est pas fini, d'après la Torah, l'été fini, le dernier jour de Sukkot. Quand on arrête de lire Moré Datal, on commence à dire Mashiach Moré Dageshem. Donc on est encore en plein été. Et cette année est, comme je l'ai expliqué dans ces cours-là, une année décisive. Elle finit Rosh Hashanah, et on peut dire qu'elle finit même à Yom Kippour, parce que la fin de l'année, c'est vraiment Yom Kippour et Sukkot aussi. On peut dire que finit la Torah, le jour de Simchat Torah, c'est là que tout finit. Le vrai départ de l'année commence après Sukkot. Donc j'imagine et j'espère que durant ces jours-là, on aura des choses, des événements grandioses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour nous conforter ou peut-être nous réveiller, nous faire peur, parce que ça fait un peu peur. En Israël, il n'y a plus aucun doute dans les journaux, ils disent sans aucun doute, Israël va attaquer l'Iran. Donc je pense que le Rav Eliashiv est allé intercéder auprès d'Hachem avec tous ses grands mérites, et il en a, que cette guerre, qui si Machiar se dévoile au mois de Av, dure jusqu'à Sukkot, fait 2 mois à tirer, c'est pas aujourd'hui comme à l'époque, aujourd'hui ça va très vite une guerre, hein. 2 mois de guerre, c'est pas facile à tirer, peut-être il a voulu que ça soit plus rapide, et qu'on vive encore dans la paix et la bonne humeur, un maximum de temps, peut-être que même Bezrat Hashem, on aura droit à Mashiach sans guerre. Il y aura juste Gog ou Magog, de façon pacifique aussi, peut-être une intervention internationale pour libérer Jérusalem, je ne sais pas. Que tout se passe de façon la plus cool qu'il puisse y avoir. Je ne sais pas, c'est une supposition que j'ai. Parce qu'effectivement, quand même, ça aurait dû arriver au mois de Av. On a su aussi après coup, qu'il y a tout à coup, il y a eu des grandes discussions à l'État. Oui, attaqué, non attaqué. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas, je n'ai pas encore vérifié bien, que Obama n'était pas content, qu'on aurait dû déjà, Israël aurait dû attaquer déjà au printemps. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ça aurait dû déjà avoir eu lieu. Hachem, grâce à tous les Sadekim qui partent, il y en a beaucoup qui partent maintenant, avec grand mérite, il repousse pour que Amisrael ne souffre pas, pour que l'humanité ne souffre pas, et que ça se passe de la façon la plus cool possible. C'est ce que je pense. Maintenant, on saura bien. Si jamais rien s'est passé, rien s'est passé, la vie continue. On aura d'autres dates, en fait, pas. Mes munitions ne sont pas terminées. Ce qui me fait dire que c'est quand même assez proche. En Israël, on parle d'une guerre. Bibi a envoyé des messagers chez les grands de la Torah, comme ils ont dit dans le journal, pour recevoir leur bénédiction pour attaquer l'Iran. Ils ont refusé. disons, tant qu'il n'a pas, pas réglé le problème des masques à gaz anti-attaque chimique pour les Juifs à barbe, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils mettent en danger, donc l'État d'Israël fait fi d'une une grande portion de la population qui est barbue et pour qui les masques à gaz conventionnels ne sont pas suffisants. La question qui se pose, alors dans ce cas, faut-il des masques à gaz, oui ou non? Je ne réponds pas. Parce que si jamais quelqu'un est asphyxié par un gaz vert qui se balade comme ça, Rav Shai avait dit qu'il n'y a pas besoin. Donc je ne réponds pas à la question. Voilà. Donc chacun fera comme il veut. Un des élèves est parti pose la question au Rav Moshe Tzadka hier, qui lui a dit qu'il peut compter, il peut avoir du bitachon b'Hashem, il peut se renforcer en confiance dans Hashem. Je pense qu'à Jérusalem, ce n'est pas trop critique. Encore une fois, sans aucune responsabilité, ceux qui veulent, qu'ils aillent, il y a un numéro gratuit, ils t'envoient, ils t'amènent à la maison, le masque à gaz. Ouais, peine peut-être, quand tu vois un petit nuage vert qui vient, pourquoi j'ai pas pris mon masque à gaz. C'est vrai qu'il faut se raser la barbe. À l'époque, je me souviens, la première guerre du Golfe, ils avaient dans le commerce, ça coûtait 2000 shekels, des masques à gaz pour barbus, une sorte de cloche comme ça en verre. Donc, tu es avec une pompe, d'accord, tu es rentré de l'air, etc. Attention, ceux qui ont les masques à gaz conventionnels, ne pas oublier d'enlever le petit bouchon. 4 ou 5 personnes sont décédées lors de la première guerre du Golfe lorsqu'ils ont mis les masques à gaz, lorsqu'il y a eu l'exclude que Saddam Hussein a envoyé. On ne savait pas si c'était des armes conventionnelles ou gaz. Donc, la population entière, moi y compris, on a mis des masques à gaz. Et il y en a qui ont enlevé le petit bouchon. Et sentaient qu'ils commençaient à étouffer. Ils se sont dit, certainement, c'est le masque, c'est le gaz qui passe aussi un peu. Donc, il faut surtout pas enlever le masque. Alors qu'il n'y a rien du tout, les pauvres. Ils ont été étouffés comme ça pour rien. D'accord. Donc, n'oublie pas d'enlever le petit bouchon. C'est primordial.
Si les rabbins, ils parlent de ça, ils parlent de masque à gaz pour barbu, etc., c'est vraiment dire qu'il va se passer quelque chose. Alors, ça m'en souffle.
C'est ce que je dis. Maintenant, elle est décédée il y a 2-3 jours. Un des grands tzaddikim de la génération, le Admor de Shomer Emunim, le Rav Raté, d'accord, de la Tolot Aharon, un grand tzaddik, qui a laissé un testament disant que de façon absolument certaine, 100%, on était à la veille d'une guerre mondiale. Voilà. Encore une fois, il peut se tromper. Des grands et plus grands que lui, on dit, se sont trompés. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Il n'y a pas d'Azam Machiar, lui, il parle d'une guerre.
Ouais, mais j'imagine que. Non, il parle de son. Il y a d'autres textes qu'il a. Ouais, c'est lié. C'est lié. Il y a des textes, on peut trouver. Il est allé faire Nihum Avelim, donc consoler le Rav David Abou Khatsera lorsque son frère Rabbi Elazar a été assassiné. Et là, sur 4-5 pages, il parle du Machiar, c'est pour maintenant. Enfin, c'est un show du Machiar. Et c'est clair que quand il parle maintenant d'une grande guerre, il parle de la fin. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous concerne, nous? Se renforcer. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ceux qui veulent acheter des masques à gaz, qu'ils le fassent. Il est vrai qu'il est mieux d'être en Israël qu'à l'étranger. Est-ce qu'il faut absolument quitter la France pour aller en Israël? Je ne sais pas. Je pense que non. Je ne pense pas que Hachem va décider que tous les tzadikim qui sont à l'étranger vont être liquidés parce qu'ils sont à l'étranger. Je ne pense pas que ce soit logique. Néanmoins, il est clair qu'il y a une plus grande protection divine sur Israël qu'à l'étranger. Ne serait-ce qu'au niveau de ce que, sans parler maintenant de façon mystique ou religieuse, de façon tout simplement sensée, d'accord. Du point de vue stratégique, il est clair que l'Occident est beaucoup plus fort que l'Iran. Du point de vue du terrorisme, il est clair que l'Iran est même plus fort que l'Occident. L'Occident ne peut rien faire contre presque rien faire contre le terrorisme iranien. Et Ahmadinejad a déjà annoncé qu'ils avaient 800 cellules dormantes dans le monde entier. Je pense que c'est beaucoup plus. Il n'en faut pas beaucoup. Un peu de poudre aux beaux endroits, et c'est fini. D'accord ? Ça peut faire des dizaines de millions, centaines de millions, à Shamish mort, de morts. Comme l'écrivent les textes chiites annonçant la venue du Mahdi, le 12e imam caché, qui est le Mashiach version chiite. D'accord ? Qui doit se dévoiler dans des cadres de guerre apocalyptique terrible, sanglante, où beaucoup, une grande partie du monde doit partir, doit disparaître. C'est dans leur prophétie. J'ai lu dernièrement que Khamenei, donc le dirigeant de l'Iran, a annoncé officiellement à leurs armées de se préparer que dans les 6 mois, c'est-à-dire déjà il y a 1 ou 2 mois, dans les 6 mois, c'était la fin, que voilà, c'était la grosse, c'est la fin du monde, la grande guerre, le monde entier, etc. Donc eux pensent comme ça, nous on pense comme ça, les rabbins pensent comme ça, il semblerait que les spécialistes stratégiques pensent aussi comme ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous? L'essentiel, c'est pas, certainement pas la protection physique. Quitter la France, venir en Israël, repartir en France, oui, non. L'essentiel, c'est mettre sa confiance en Hachem. Parce que si on parle de la guerre de la faim, c'est clair que si Hachem veut nous sauver, peut nous sauver. Ce n'est pas une protection physique qui fera quelque chose. Si Hachem décide que quelqu'un doit mourir malgré la protection physique, eh ben, il mourra. S'il doit vivre, eh ben, malgré qu'il n'ait aucune protection physique, il vivra. Donc mettre sa foi en Hachem, évidemment, être cohérent. Je ne peux pas avoir foi en Hachem et être à côté de la plaque dans mon comportement. Donc faire tchouva. Je suis très content que Mashiach n'est pas venu au mois de Av, parce que Av, tout le monde est à la plage. Et franchement, ce n'est pas le bon moment pour que Mashiach vienne. Par contre, s'il vient à Rosh Hashanah, Kippour, c'est le moment de tchouva, la main de Dieu elle est tendue, c'est un moment de grand rachamim de Dieu. Donc c'est l'occasion maintenant de nous préparer. Et il ne peut pas y avoir de tchouva, il ne peut pas y avoir de grande lumière dans ces jours qui sont des jours énormes du peuple d'Israël, s'il n'y a pas une préparation. Juste entre guillemets, c'est une parenthèse intéressante que... chez les chrétiens, toutes les fêtes juives sont présentes. Hanouka, Noël. Purim, Mardi Gras. Pessah, Pâques. Shavuot, Pentecôte. Tisha B'Av, destruction du temple, nous n'avons rien à faire. Par contre, toutes les fêtes qui parlent, qui sont des fêtes de la fin des temps, c'est les jours de jugement, mais c'est le jugement dernier de Dieu. Parce que quand on parle du shofar, quand on sonne du shofar au Shoshana, c'est marqué que les forces du mal, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est le shofar du Mashiach. Soukot, c'est la fête qui parle de la fin des temps. Toutes ces fêtes-là parlent de la fin des temps, du jugement dernier. Ça a été complètement escamoté chez les chrétiens. Ben, c'est normal, c'est leur propre fin. Donc ça correspond bien. Ça peut bien corroborer au fait que Baruch Hashem, on va peut-être vivre cette fin. Encore une fois, je peux me tromper, je me trompe surtout, ne paniquez pas. Préparez-vous, parce qu'on va dire il y a une chance sur 10 000 que j'ai raison. Enfin, quand même un peu peu. Une chance sur 100 que j'ai raison. Ça vaut la peine de prendre ses chances sur 100 pour bien se préparer. Et si jamais il s'avère qu'il n'y a rien de s'est préparé, au moins on a passé Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot, bien, ça ne manque pas de malheur, ça ne manque pas de maladie, ça ne manque pas de problème, ça ne manque pas de crise, ça ne manque pas de... que Dieu nous signe dans le livre de la réussite et pas des malheurs. Donc il faut faire une grande tchouva, avoir beaucoup confiance en Hachem et être cohérent. Prendre sur soi de changer. Prendre sur soi de changer. Le point numéro 1, c'est clair, c'est le grand essai de tout le monde aujourd'hui, du monde entier, c'est le côté, la débauche, tout ce qui est masculin, féminin, attention aux yeux, pas regarder de femmes, pas penser, pas zera les batala, pas se mettre en ta direction, les femmes, la tzniout, je répète, les femmes, la tzniout, je répète, les femmes, la tzniout, pas la française, parce que c'est n'importe quoi, la tzniout, tzniout, comme il faut bien. Ça, c'est numéro 1. Shabbat, dans les moindres petits détails, kashrout, la prière, tout, la totale. Maintenant, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Quelqu'un qui est loin ne peut pas tout faire. Alors, nous tous, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait changer. Il faut faire un progrès général, mais bien réfléchir sur un point principal que je prends sur moi pour la nouvelle année. Je peux dire à Hachem, voilà, tu comprends comme moi que je ne peux pas changer du jour au lendemain. Je suis un être humain, je ne suis pas une crêpe. Je prends sur moi de changer. Sur ça, ce point-là, je change, mais une décision totale, 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 c'est marqué. C'est marqué « Ouvrez-moi l'ouverture comme le chat d'une aiguille, j'ouvrirai une ouverture grande comme celle du palais. » Les commentateurs disent « Pourquoi d'une aiguille ?» Ils disent « L'aiguille, c'est du métal. Quand tu fais un trou dans une aiguille, c'est solide, c'est pas la pâte à modeler. » Donc fais un petit trou. Pour Hachem, c'est bien, mais un petit trou solide. C'est pas que tu prends maintenant une décision, puis 2 semaines ou 2 mois ou même 6 mois après Yom Kippour, ça part en cacahuète. Et ça, ça nécessite une grande réflexion. Il y a une tendance naturelle à prendre une chose trop grande sur soi. C'est déconseillé parce qu'on parle d'une chose qui doit rester pour toujours. Et durant ces jours de Elul, de Rosh Hashanah et Kippour, on est high. On est high, il y a une pression, on est comme ça. Donc on veut tout prendre et on est un peu idiot de prendre un truc tout petit comme ça. Mais comprends bien que dans 6 mois, tu ne seras plus high du tout. Tu seras down, down, down. Tu as l'été prochain, le mois d'août, le mois de juillet, à tenir aussi. Et tous les mois de juillet, tous les mois d'août, et tous les benazmanim, et tous les vacances de Yeshiva, il faut tenir. Donc prendre une chose qui est trop grande, c'est impossible. Tu veux prendre en tant que, ok, je vais essayer de. Mais la décision qui doit être solide comme le chat d'une aiguille, c'est une chose qui est petite. Pas trop dure, Pas trop facile non plus. Faut pas non plus se moquer de... D'accord.
Faut que ce soit une obligation. Obligation dans la Torah, ou ça peut être une qu'on se fait.
Ça dépend où on est. Quelqu'un qui... ne pratique pas déjà toutes les obligations de la Torah. Il se fait une chumra, c'est tordu. Dieu te dit, je t'ai obligé de faire ça, et toi tu me choisis maintenant un truc qui n'est pas obligatoire, fais au moins ce que j'ai demandé. Mais les conseils.
Ouais. Le rappel, tout le matin.
Qu'est-ce qu'on peut... impossible de rêver trop le matin. T'as pris une montagne et un tas. Par exemple, sortir Shabbat Rabbeinu Tam. Ouais, ça me gêne un peu. Ouais, bon, ça peut être par exemple Shabbat Rabbeinu Tam.
Ça peut être un temps fixe de Torah.
Pourquoi ça me gêne?
Lire Birkat Hamazon dans le livre.
Voilà, ça c'est un truc très bien.
Il est pas
lire Birkat Hamazon dans le livre, dans le Sidour. C'est un conseil que Rav Shach il propose à l'époque. Birkat Hamazon, voilà. Pardon?
Lire Birkat Hamazon tout court.
Lire Birkat Hamazon tout court, bien sûr, ça c'est évident. Voilà, par exemple. Tout dépend de qui on parle. Ok, celui qui est loin, alors il doit prendre des choses basiques, okay, etc. Ceux qui font pas Kriyat Shema, des rabbanan, des korbanot, le faire par exemple. Aller au mikvé la veille de Shabbat. C'est bon de qui on parle. C'est, encore une fois, moi, c'est vrai que je parle pour des gens qui sont déjà OK au niveau de tout ce qu'il faut faire.
Ah, mais c'est dur, Migvé, parce que si jamais on est loin d'un Migvé...
On... Alors pas. Alors OK, si on peut, je veux dire, c'est vrai. C'est Migvé, tout où on peut, où il y a un Migvé à proximité, y aller. S'il n'y a pas, il n'y a pas.
On fait des plats, alors, dans notre...
Ouais, mais bon, c'est compréhensible. Moi, je vais au Migvé toujours, tous les veilles, j'ai tous les jours au Migvé. Mais ça arrive aussi des fois que je n'ai pas pu aller parce que j'étais dans un bled perdu. Voilà, c'est pas OK, mais c'est une chose que tu as pris sur toi. C'est vrai que ce sont des choses qui sont en plus. Du moussard, hein, c'est quelqu'un qui peut prendre sur lui le moussard. Essayez d'éviter de prendre le moussard quotidien parce qu'on ne tient pas. Mais un moussard minimal hebdomadaire, ça, il a gagné le gros lot. De lire du moussard sur le Chafetz Chaim, étudier les lois de la Shonara, oui. Mais attention, ça aussi, pas le prendre sur soi tous les jours, c'est très dur de tenir. Le Shonara, il se bat contre ça très très dur. Très très dur. Mais si quelqu'un, je peux donner un conseil à quelqu'un, lire du moussard. Ouais, lire du moussard, parce que si on a ça, on a tout. Et le Sarah, il se bat là-dessus, très très dur. Donc un petit temps, mais ce petit temps, il est sacro-saint. On fera hebdomadaire, bi-hebdomadaire, tri-hebdomadaire. Voilà. Bon, chacun aime réfléchir, tout dépend où il est, où il en est, qui il est, où il veut arriver, etc. Don't panic, si vous entendez les sirènes, alors les sirènes qui sont en continu, c'est fausse alerte. Quand ça monte et ça descend, c'est vraie alerte. Descendre, à salle à manger, c'est l'abri. D'accord ? On mettra en place un système pour que l'abri soit ouvert, enfin quelqu'un ait les clés, quelqu'un qui est là sur place. Et puis pas rentrer en pression, c'est pas si grave, Tachem, Dieu est là, nous sauvera. C'est clair qu'on verra des miracles très très grands, surtout en terre d'Israël.
Vous avez remarqué que la date de la guerre, vous avez dit, ça se rapproche un petit peu là, des Mayas, là, 2012, etc.
Des quoi, des
Les Mayas.
Les Mayas, oui, absolument. C'est clair. La date de Maya, elle tombe le 10 Tevet. 10 Tevet, c'est le début de la destruction du temple. La boucle est bouclée, hein? Je ne sais plus quelle date c'était. Quelqu'un m'a dit que c'était le 10 Tevet. Il faut vérifier. Voilà, décembre 2012, mais quelle date exactement, voilà.
J'avais entendu un chour du Rav Pinto qui disait que Hanouka, c'était la fin des fêtes. L'Eloul, c'était aussi la continuité. On pouvait se faire pardonner jusqu'à Hanouka.
Oui, c'est vrai qu'il y a la lumière. Qu'il y a la lumière de la Tchouva de Kippour, elle dure jusqu'à Hanouka. Bon, on verra bien.
On a d'autres dates, quand même.
Bien sûr qu'il y a d'autres. Même les Mayas, ils, par exemple, ils ont trouvé un autre calendrier Maya pour 2008. On a tout ce qu'il faut, t'en fais pas. Là.
Parce que j'ai vu des reportages, les gens ils préparent des bunkers, etc. pour les Mayas.
Et des villages bunkers.
Ouais.
Ils préparent des bunkers, ils ont fait
des arches de Noé, ils ont pris toutes les espèces du monde, autant végétales qu'animales.
C'est incroyable.
Alors qu'il faut une seule chose, se rapprocher de Hachem. Il y a Hachem. C'est quoi la fin des temps? C'est la fin du mal.
Ouais, c'est...
Donc le mal doit d'abord aller se ratatiner entre eux, puis à la fin ils vont voir que, après tout, c'est à cause d'Israël que tout arrive, ils viendront contre nous, et leur Tachem, ça sera leur fin. C'est à propos de ça le scénario. Encore une fois, on peut se tromper, on n'est pas prophète. Leur Tachem, on espère que tout se passera pour le mieux. Amen, Kenerazzo. Voilà, si c'est vrai ce que je dis, il faut se préparer bien. C'est des moments grandioses, quoi. Ça fait 5773 ans que l'humanité, que le monde attend ce moment. Ah, très, très grand.
On est zoré pour Mashiach. On sera zoré peut-être pour voir Mashiach.
Ouais, on espère.
J'ai un sroute.
Bien sûr, t'as un sroute.
Je sais pas, je vois tous les tzadikim partir comme ça. Je me dis, eux, ils ont pas de sroute. Moi, j'ai.
Ouva le Tion Goel, Ulchavefesha, Beyakov, Neum Hashem. Viens à Sion, le Rédempteur, pour ceux qui font tchouva du péché dans Israël, discours d'Hachem. Pour qui vient Mashiach? Pour ceux qui font tchouva du péché. Tu n'as pas d'endroit plus sûr que la yeshiva ici. Il y a autre yeshiva du même type, d'accord? Il y a des balais de tchouva. Surtout au niveau des harayot. Surtout au niveau qu'ils fréquentaient les filles, ou ils faisaient des batelas, ils ont arrêté. Rachetez votre de Uva Letion Goel ou Shavé Fecha. Uva Letion Goel ou Shavé Fecha, ça fait gouf. Ushav Pesha, Beyakov, Neum Hashem, Vanizot Briti, Banav, rachetez votre Banav, Gouf, Banav, le corps et les enfants. Il y a un corps avec toute la spiritualité. Maintenant, quand quelqu'un met au monde un enfant, il prend une partie d'étincelle de vie, qu'on appelle cela, et l'insère chez la femme, avec sa semence, et c'est comme ça que ça crée la vie chez la femme. Quand on faisait la batala, ça part dans rien, dans le mal, et ça empêche la gula de venir. Donc, la tchouva des harayot, des péchés sexuels, c'est ça justement qui fait que le Mashiach revienne. C'est pour ça qu'actuellement, le mal met toute la gomme là-dedans, parce que c'est comme ça qu'on peut empêcher. Et tu vois que c'est le déchaînement total. Même les goyim m'ont écrit, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Pourquoi il laisse faire? C'est vrai que c'est terrible. Terrible, 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 terrible. Internet, je sais pas. Enfin, nombre de personnes qui tombent là-dedans, c'est inimaginable. Inimaginable. Et c'est une vraie drogue. Celui qui est addict, il ne peut pas s'arrêter.
Une immersion totale. Puis après, on va sortir et on va être encore plus sensible.
C'est quelque chose qui a souvent été posé. Ça s'appelle le principe nicotine. Quelqu'un qui fume beaucoup et a les poumons nicotinés. Il devient insensible à la fumée. Il n'est pas sensible. Moi, je ne fume pas. Je suis très sensible. Alors, quelqu'un fume près de moi. Je passe dans le couloir. Rien que je vais respirer un peu de fumée. Pendant une demi-heure, je sens une oppression ici dans les poumons. Une demi-heure. Si je fume vraiment, ça m'arrive des fois à pourrir, comme ça. Je fais une taf, d'accord. Après 5 minutes, je suis par terre. Je vois le monde en train de tourner dans tous les sens. Et je m'enfonce dans le plancher. Je suis en train de m'enfoncer dans le plancher. Complètement stone, d'accord. Du tabac.
Ah bon? Ça
fait
des dérives après.
Non, non. Maintenant, tu me dis, c'est pas bien, vous avez des poumons purs. C'est mieux que vous fumiez aussi, comme ça, 20 cigarettes par jour, comme ça vous serez insensible. C'est mieux?
Non.
Même chose. Tu me dis maintenant, dehors, il y a plein de fumée. Si je m'attends à la chute pendant un mois, je me nettoie un peu les poumons, je vais repartir, je vais tousser. Ah bon, alors, reste dans la fumée. Tu peux avoir un mois de poumons purs, c'est mieux. Non? Voilà, c'est la réponse.
Rav, on peut être jugé sur nos marches à votre, sur nos pensées, justement.
Pardon?
On travaille sur...
Les pensées.
On travaille, on touche pas de femme, ça n'empêche pas. Des fois, on a des pensées.
Ouais.
Elles vous attaquent.
Elles attaquent.
Est-ce qu'on est jugé sur ça? Autant que comme on fait les Ralevatala, on crée des mondes alors.
C'est interdit, les pensées aussi sont interdites. Mais je comprends que tu te bats et que c'est beaucoup moins. C'est pas un acte que tu maîtrises, t'as moins de maîtrise. Les pensées viennent, elles partent, elles fusent, d'accord.
Je devrais maîtriser.
C'est difficile de maîtriser. Les pensées viennent de toute façon maintenant. L'interdit, il est quand tu t'installes dans la pensée. Si tu la fais partir tout de suite, c'est bon. Mais quand tu t'installes et tu y repenses et tu y prends plaisir, là, c'est ça.
95% quand vous ne voulez pas quelque chose qui vienne dans votre cerveau, il vient quand même.
Ouais, alors pensez à autre chose, pas penser.
Mais vous faites exprès.
Ah ouais, je comprends, on est dans la même bataille. Je comprends de quoi tu parles. Il faut se battre. Hachem, c'est marqué, il ne vient pas en trognant, il ne vient pas nous embêter exprès. D'accord. Il comprend très bien la même bataille que tu. Il vit ce que tu vis. Il comprend. D'accord. Il est juge de justice. Et s'il pense que tu t'en sors le mieux possible, ben, tu auras une grande médaille. Sinon, ben, un peu moins. Mais encore une fois, il faut comprendre d'où on vient, quel passé on a, et qu'on se bat. Voilà, maintenant. Si on regarde, on ne fait pas attention à nos regards. Si on pense, on prend plaisir à penser, si on fait pire, alors évidemment, c'est clair qu'on n'est pas propre.
Vous avez dit qu'en Israël, on est en sécurité, les bénis Israël.
Plus qu'à l'étranger.
Mais qu'est-ce qui va arriver à ceux qui sont en dehors de l'Israël?
Je ne sais pas exactement. Il y a un texte dans Yoël qui dit que sur le monde de Sion, tout le monde sera sauvé. À l'étranger, les tzadikim, ceux qui liront le Seigneur, ceux qui appelleront Hachem. Comme ça explique le Malbim, un verset un peu obscur.
Encore plus
à Jérusalem. J'ai dit le monde de Sion. Le monde de Sion, c'est Sion. Alors qu'est-ce que c'est? Le monde de Sion, c'est un endroit dans Jérusalem. Alors c'est tout Jérusalem, c'est tout Israël. De toute façon, on sait qu'il y a une Ashgacha pratique, une providence divine spéciale sur Israël. On le voit dans toutes les guerres d'Israël, on est protégé. C'est clair que c'est anormal ce qui se passe ici. Vraiment anormal. Mais aussi anormal de dire qu'Hachem va laisser tomber tous les bons juifs qu'il y a aussi à l'étranger. Bézrat Hachem, tous ceux qui vont prier Hachem, ils seront sauvés. Bézrat Hachem, j'espère. Baruch Adonai, vraiment, amen.